kun loi valojaan. Oi, ei näitä purppuroita, kun luo lamppu valoaan. Hän nyt paina milloinkaan. Ilma tahmene vaan näyttää, ambra tuoksut huoneen täyttää. On kuin jalat enkeleiden helkkyis kivilattiaan. Oi, mä huusin, sieluus saivat taivaan viestit, jotka voivat sulle tuoda rauhanhoivat, jätä lempes unhoon vaan. Hengitä, saa sielus hoivat, jäälle nooraa unhoon vaan. Korppihuus, ei milloinkaan. Profeetta saa hurjamainen, lintu taikka paholainen. Lienet kiusaajaa tai lienet säiltä tullut suojustaan. Kaikki multa alas raasta, pois saa tumet riistää maasta. Poistan kauhuin kodin laasta, mutta sua mun tietää vaan. Eikö balsamia löydy, saako hoivaa teillä maan? Korppihuus, ei milloinkaan. Profeetta, sahurjamainen, lintu taikka paholainen. Kautta taivaan, kautta luojan, vannotaan sua sanomaan. Jälkeen elon tieni karmaan, sielu edenissä varmaan. Vielä kohdan neetuan armaan, mihle nooraks mainitaan. Immen säihkyvään ja armaan, mihle nooraks mainitaan. Korppihuus, ei milloinkaan. Poissa horna viesti uusi, lintu paholainen huusin. Ulos myrskyn jälleen lähde, öiseen maahas kamalaan. Ei saa höyhen jäädä tuonne, pois sun valhees joka juonne. Jätä rauhaan tämä huone, patsaan päältä pois nyt vaan. Et saa sydäntäni raastaa, ulos ikkunasta vaan. Korppihuus, ei milloinkaan. Liikkumatta korppi siellä, yhä vielä, aina vielä. Pallaan valitun kuvan päällä istuu tyynnä paikallaan. Aavemaisen kiillot luovat, korpin silmät pahan suovat. Kun lyö lampun, valo juovat linnunvarjon lattiaan. Ja mun sieluni, min varjo lannistaa on lattiaan, ei voi nousta milloinkaan. End of poem. This recording is in the public domain.
Le Corbeau by Edgar Allan Poe, translated by Charles Baudelaire, read for LibriVox.org in French by Didier. Une fois sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué, sur maint précieux et curieux volume d'une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête presque assoupie, soudain il se fit un tapotement, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. C'est quelque visiteur, murmurai-je, qui frappe à la porte de ma chambre. Ce n'est que cela, et rien de plus. Ah, distinctement, je me souviens que c'était dans le glacial décembre, et chaque tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie. Ardemment, je désirais le matin. En vain m'étais-je efforcé de tirer de mes livres un sursis à ma tristesse pour ma Lénore perdue, pour la précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénore, et qu'ici on ne nommera jamais plus. Et le soyeux, triste et vague bruissement des rideaux pourprés me pénétrait, me remplissait de terreurs fantastiques, inconnues pour moi jusqu'à ce jour. Si bien qu'enfin, pour apaiser le battement de mon cœur, je me dressais répétant « C'est quelque visiteur attardé sollicitant l'entrée à la porte de ma chambre. C'est cela même et rien de plus. » Mon âme en ce moment se sentit plus forte, n'hésitant donc pas plus longtemps. « Monsieur, dis-je, ou madame, En vérité, j'implore votre pardon, mais le fait est que je sommeillais et vous êtes venu frapper si doucement, si faiblement vous êtes venu frapper à la porte de ma chambre, qu'à peine étais-je certain de vous avoir entendu. Et alors j'ouvris la porte toute grande. Les ténèbres et rien de plus. Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps plein d'étonnement, de crainte, de doute, rêvant des rêves qu'aucun mortel n'a jamais osé rêver. Mais le silence ne fut pas troublé, et l'immobilité ne donna aucun signe, et le seul mot proféré fut un nom chuchoté, « Lénore ». C'était moi qui le chuchotais, et un écho à son tour murmura ce mot, « Lénore ». Purement cela, et rien de plus. Rentrant dans ma chambre et sentant en moi toute mon âme incendiée, j'entendis bientôt un coup un peu plus fort que le premier. Sûrement, dis-je, sûrement il y a quelque chose aux jalousies de ma fenêtre. Voyons donc ce que c'est et explorons ce mystère. Laissons mon cœur se calmer un instant et explorons ce mystère. C'est le vent. Et rien de plus. Je poussai alors le volet, et avec un tumultueux battement d'ailes, entra un majestueux corbeau digne des anciens jours. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s'arrêta pas, il n'hésita pas une minute. Mais avec la mine d'un lord ou d'une lady, il se percha au-dessus de la porte de ma chambre. Il se percha sur un buste de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre. Il se percha, s'installa, et rien de plus. Alors cet oiseau d'ébène, par la gravité de son maintien et la sévérité de sa physionomie, induisant ma triste imagination à sourire, « Bien que ta tête, lui dis-je, soit sans huppe et sans cimier, tu n'es certes pas un poltron, lugubre et ancien corbeau, voyageur parti des rivages de la nuit. Dis-moi quel est ton nom seigneurial aux rivages de la nuit plutonienne. » Le corbeau dit, « Jamais plus. » Je fus émerveillé que ce disgracieux volatile entendît si facilement la parole, bien que sa réponse n'eût pas un bien grand sens et ne me fût pas d'un grand secours, car nous devons convenir que jamais il ne fut donné à un homme vivant de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa chambre, un oiseau ou une bête sur un buste sculpté au-dessus de la porte de sa chambre, se nommant d'un nom tel que « Jamais plus ». Mais le corbeau, perché solitairement sur le buste placide, ne proféra que ce mot unique, comme si dans ce mot unique il répandait toute son âme. Il ne prononça rien de plus, il ne remua pas une plume, jusqu'à ce que je me prisse à murmurer faiblement. D'autres amis se sont déjà envolés loin de moi. Vers le matin, lui aussi, il me quittera comme mes anciennes espérances déjà envolées. L'oiseau dit alors, « Jamais plus !» Tressaillant au bruit de cette réponse jetée avec tant d'à-propos, « Sans doute, dis-je, ce qu'il prononce est tout son bagage de savoir qu'il a pris chez quelques maîtres infortunés que le malheur impitoyable a poursuivi ardemment, sans répit, jusqu'à ce que ses chansons n'eussent plus qu'un seul refrain, jusqu'à ce que le De profundis de son espérance eût pris ce mélancolique refrain « Jamais, jamais plus ». Mais le corbeau induisant encore toute ma triste âme à sourire, je roulais tout de suite un siège à coussin en face de l'oiseau et du buste et de la porte. Alors, m'enfonçant dans le velours, je m'appliquais à enchaîner les idées aux idées, cherchant ce que cet augural oiseau des anciens jours, ce que ce triste, disgracieux, sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours voulait faire entendre en croissant son « Jamais plus !» Je me tenais ainsi, rêvant, conjecturant, mais n'adressant plus une syllabe à l'oiseau dont les yeux ardents me brûlaient maintenant jusqu'au fond du cœur. Je cherchais à deviner cela, et plus encore, ma tête reposant à l'aise sur le velours du coussin que caressait la lumière de la lampe, ce velours violet caressé par la lumière de la lampe que sa tête, à elle, ne pressera plus. Ah, jamais plus! Alors il me sembla que l'air s'épaississait, parfumé par un encensoir invisible que balançaient les séraphins dont les pas frôlaient le tapis de ma chambre. « Infortuné, m'écriai-je, ton Dieu t'a donné par ses anges, il t'a envoyé du répit et d'une épenthèse dans tes ressouvenirs de Lénore. Bois, oh, bois ce bon épenthèse et oublie cette Lénore perdue. » Le corbeau dit « Jamais plus. » « Prophète, dis-je, être de malheur, oiseau ou démon, mais toujours prophète, que tu sois un envoyé du tentateur ou que la tempête t'ait simplement échoué, naufragé, mais encore intrépide sur cette terre déserte, ensorcelée, dans ce logis par l'horreur hantée, dis-moi sincèrement, je t'en supplie, existe-t-il ici un baume de Judée? Dis, dis, je t'en supplie. » Le corbeau dit « Jamais plus. » « Prophète, dis-je, être de malheur, oiseau ou démon, toujours prophète, par ce ciel tendu sur nos têtes, par ce Dieu que tous deux nous adorons, dis à cette âme chargée de douleur si dans le paradis lointain elle pourra embrasser une fille sainte que les anges nomment Lénore, embrasser une précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénore. » Le corbeau dit « Jamais plus. » « Que cette parole soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon, » hurlai-je en me redressant. « Rentre dans la tempête, retourne au rivage de la nuit plutonienne. Ne laisse pas ici une seule plume noire comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré. Laisse ma solitude inviolée, quitte ce buste au-dessus de ma porte, arrache ton bec de mon cœur et précipite ton spectre loin de ma porte. » Le corbeau dit « Jamais plus !» Et le corbeau immuable est toujours installé sur le buste pâle de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre. Et ses yeux ont toute la semblance des yeux d'un démon qui rêve. Et la lumière de la lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher. Et mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le plancher, ne pourra plus s'élever, jamais plus. End of poem. This recording is in the public domain.
Le Corbeau by Edgar Allan Poe, translated by Stéphane Mallarmé. Read for LibriVox.org in French by Aldor. Une fois, par un minuit lugubre, tandis que je m'appesantissais, faible et fatigué, sur main curieux et bizarre volume de savoir oublié, tandis que je dodelinais la tête, somnolent presque, soudain se fit un heurt, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre, cela seul et rien de plus. Ah! Distinctement, je me souviens que c'était en la glaciale décembre, et chaque tison, mourant isolé, ouvrageait son spectre sur le sol. Ardemment, je souhaitais le jour. Vainement, j'avais cherché d'emprunter à mes livres un sursis au chagrin de la Lénore perdue, de la rare et rayonnante jeune fille que les anges nomment Lénore, de nom pour Élysée, non, jamais plus. Et de la soie, l'incertain et triste bruissement en chaque rideau purpural me traversait, m'emplissait de fantastiques terreurs passanties encore, si bien que, pour calmer le battement de mon cœur, je demeurais maintenant à répéter « Ces quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à la porte de ma chambre, quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à la porte de ma chambre, c'est cela et rien de plus. » Mon âme se fit subitement plus forte et n'hésitant davantage. « Monsieur, dis-je, ou madame, j'implore véritablement votre pardon. Mais le fait est que je somnolais et vous vint si doucement frapper et si faiblement vous vint heurter à la porte de ma chambre que j'étais à peine sûr de vous avoir entendu. Ici, j'ouvris grande la porte, les ténèbres. Et rien de plus. Loin, dans l'ombre regardant, je me tins longtemps à douter, m'étonner et craindre, à rêver des rêves qu'aucun mortel n'avait osé rêver encore. Mais le silence ne se rompit point, et la quiétude ne donna de signe, et le seul mot qui se dit fut le mot chuchoté, Lénore. Je le chuchotai, et un écho murmura de retour le mot « Lénore ». Purement cela, et rien de plus. Rentrant dans la chambre, toute mon âme en feu, j'entendis bientôt un heurt en quelque sorte plus fort qu'auparavant. Sûrement, dis-je, sûrement c'est quelque chose à la persienne de ma fenêtre. Voyons donc ce qu'il y a et explorons ce mystère. Que mon cœur se calme un moment et explore ce mystère, c'est le vent et rien de plus. Au large, je poussai le volet quand, avec maint enjouement et agitation d'ailes, entra un majestueux corbeau des saints jours de jadis. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s'arrêta ni n'hésita un instant, mais, avec une mine de lord ou de lady, se percha au-dessus de la porte de ma chambre, se percha sur un buste de palace, juste au-dessus de la porte de ma chambre, se percha, siégea, et rien de plus. Alors, cet oiseau d'ébène induisant ma triste imagination au sourire, par le grave et sévère décorum de la contenance qu'il eut, quoique ta crête soit chue et rase, non, dis-je, tu n'es pas pour sûr un poltron, spectral, lugubre et ancien corbeau, errant loin du rivage de nuit. Dis-moi, quel est ton nom seigneurial au rivage plutonien de nuit? Le corbeau dit, jamais plus. Je m'éveillais fort d'entendre ce disgracieux volatile s'énoncer aussi clairement, quoique sa réponse n'eût que peu de sens et peu d'à-propos, car on ne peut s'empêcher de convenir que nul homme vivant n'eût encore l'heure de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa chambre, un oiseau ou toute autre bête sur le buste sculpté au-dessus de la porte de sa chambre avec un nom tel que « Jamais plus ». Mais le corbeau, perché solitairement sur ce buste placide, parla ce seul mot comme si mon âme, en ce seul mot, il la répandait. Je ne proférai donc rien de plus. Il n'agita donc pas de plume, jusqu'à ce que je fis à peine davantage que marmotter. D'autres amis déjà ont pris leur vol. Demain, il me laissera comme mes espérances déjà ont pris leur vol. Alors l'oiseau nie, jamais plus. Tressaillant au calme rompu par une réplique si bien parlée, sans doute, dis-je, ce qu'il profère est tout son fond et son bagage, pris à quelque malheureux maître que l'impitoyable désastre suivit de près et de très près suivit, jusqu'à ce que ses chansons comportassent un unique refrain, jusqu'à ce que les chants funèbres de son espérance comportassent le mélancolique refrain de « jamais, jamais plus ». Le corbeau, induisant toute ma triste âme encore au sourire, je roulai soudain un siège à coussin en face de l'oiseau et du buste et de la porte, et m'enfonçant dans le velours, je me pris à enchaîner songerie à songerie, pensant à ce que cet augural oiseau de jadis, à ce que ce sombre, disgracieux, sinistre, maigre et augural oiseau de jadis signifiait en croissant. Jamais plus. Cela, je m'assis occupé à le conjecturer, mais n'adressant pas une syllabe à l'oiseau, dont les yeux de feu brûlaient maintenant au fond de mon sein. Cela, et plus encore, je m'assis pour le deviner, ma tête reposant à l'aise sur la housse de velours des coussins que dévorait la lumière de la lampe. Housse violette de velours dévorée par la lumière de la lampe, qu'elle ne pressera plus à jamais plus. L'air, me sembla-t-il, devint alors plus dense, parfumé selon un encensoir invisible, balancé par les séraphins dont le pied, dans sa chute, teintait sur l'étoffe du parquet. « Misérable, m'écriai-je, ton Dieu t'a prêté, il t'a envoyé par ses anges le répit et le népenthès dans ta mémoire de Lénore. Bois, oh, bois ce bon népenthès et oublie cette Lénore perdue. » Le corbeau dit, « Jamais plus. » « Prophète, dis-je, être de malheur, prophète, oui, oiseau ou démon, que si le tentateur t'envoya ou la tempête t'échoua vers ses bords, désolé et encore tout indompté, vers cette déserte terre enchantée, vers ce logis par l'horreur hanté, dis-moi véritablement, je t'implore, y a-t-il du baume en Judée? Dis-moi, je t'implore. » Le corbeau nie, jamais plus. Prophète, dis-je, être de malheur, prophète, oui, oiseau ou démon, par les cieux sur nous épars, et le Dieu que nous adorons tous deux, dis à cette âme de chagrin chargée si, dans le distant Éden, elle doit embrasser une jeune fille sanctifiée que les anges l'homme Lénore. Embrasser une rare et rayonnante jeune fille que les anges nomment Lénore. Le corbeau nie, jamais plus. Que ce mot soit le signal de notre séparation, oiseau malin esprit, hurlai-je en me dressant. Recule en la tempête et le rivage plutonien de nuit. ne laisse pas une plume noire ici comme un gage du mensonge qu'a proféré ton âme. Laisse inviolé mon abandon, quitte le buste au-dessus de ma porte, ôte ton bec de mon cœur et jette ta forme loin de ma porte. Le corps maudit, jamais plus. Et le corbeau, sans voleté, siège encore sur le buste pallide de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre, et ses yeux ont toute la semblance des yeux d'un démon qui rêve, et la lumière de la lampe ruisselant sur lui projette son ombre à terre, et mon âme, de cette ombre qui gît flottant à terre, ne s'élèvera jamais plus. End of poem. This recording is in the public domain.
Le Corbeau by Edgar Allan Poe, translated by Maurice Roina, read in French for LibriVox.org by Iswa, in Belgium, in October 2008. Vers le sombre minuit, tandis que fatigué j'étais à méditer sur maint volume rare pour tout autre que moi dans l'oubli relégué, pendant que je plongeais dans un rêve bizarre, il se fit tout à coup comme un tapotement de quelqu'un qui viendrait frapper tout doucement chez moi. Je dis alors, bâillant, d'une voix morte, « C'est quelque visiteur, oui, qui frappe à ma porte. C'est cela seul et rien de plus. » Ah, très distinctement, je m'en souviens. C'était par un âpre décembre. Au fond du foyer pâle, chaque braise à son tour lentement s'émiettait en brodant le plancher du reflet de son râle. Avide du matin, le regard indécis, j'avais lu, sans que ma tristesse eût un sursis, ma tristesse pour l'ange enfui dans le mystère, que l'on nomme là-haut Lénore, et que sur terre, on ne nommera jamais plus. Et les rideaux pourprés sortaient de la torpeur, et leur soyeuse voix, si triste et si menue, me faisait tressaillir, m'emplissait d'une peur fantastique et pour moi jusqu'alors inconnue. Si bien que pour calmer enfin le battement de mon cœur, je redis debout. Évidemment, c'est quelqu'un attardé qui, par ce noir décembre, est venu frapper à la porte de ma chambre. C'est cela même, et rien de plus. Pourtant, je me remis bientôt de mon émoi, et sans temporiser, « Monsieur, dis-je, ou madame, madame ou bien monsieur, de grâce, excusez-moi de vous laisser ainsi dehors, mais, sur mon âme, je sommeillais, et vous, vous avez tapoté si doucement à ma porte, qu'en vérité à peine était-ce un bruit humain que l'on entende. » Et cela dit, j'ouvris la porte toute grande. Les ténèbres et rien de plus. Longuement à pleins yeux, je restai là, scrutant les ténèbres, rêvant des rêves qu'aucun homme n'osa jamais rêver, stupéfait, hésitant, confondu et béant d'angoisse. Mais en somme, pas un bruit ne troubla le silence enchanté, et rien ne frissonna dans l'immobilité. Un seul nom fut soufflé par une voix. « Lénore !» C'était ma propre voix. L'écho, plus bas encore, redit ce mot, et rien de plus. Je rentrai dans ma chambre à pas lents, et tandis que mon âme, au milieu d'un flamboyant vertige, se sentait défaillir et rouler, j'entendis un second coup plus fort que le premier. « Tiens, dis-je, on cogne à mon volet ?» « Diable, je vais y voir. Qu'est-ce que mon volet pourrait donc bien avoir? Car il a quelque chose. Allons à la fenêtre et sachons sans trembler ce que cela peut être. C'est la rafale et rien de plus. » Lors, j'ouvris la fenêtre et voilà qu'à grand bruit, un corbeau de la plus merveilleuse apparence entra, majestueux et noir comme la nuit. Il ne s'arrêta pas, mais plein d'irrévérence brusque, d'un air de lord ou de lady, s'en vint s'abattre et se percher sur le buste divin de Pallas, sur le buste à couleur pâle, en sorte qu'il se jucha tout juste au-dessus de ma porte. Il s'installa, puis rien de plus. Et comme il induisait mon pauvre cœur amer à sourire, l'oiseau de si mauvais augure, par l'âpre gravité de sa pose et par l'air profondément rigide empreint sur sa figure, alors, me décidant à parler le premier, « Tu n'es pas un poltron, bien que sans nul cimier sur la tête, » lui dis-je. « Ô rôdeur des ténèbres, comment t'appelle-t-on sur les rives funèbres ?» L'oiseau répondit
« Jamais plus. »
J'admirai qu'il comprît la parole aussi bien, malgré cette réponse à peine intelligible et de peu de secours. Car mon esprit convient que jamais aucun homme existant et tangible ne put voir au-dessus de sa porte un corbeau. Non, jamais ne put voir une bête, un oiseau, par un sombre minuit, dans sa chambre, tout juste au-dessus de sa porte, installé sur un buste, se nommant ainsi « Jamais plus ». Mais ce mot fut le seul que l'oiseau proféra, comme s'il y versait son âme tout entière. Puis, sans rien ajouter de plus, il demeura inertement figé dans sa raideur altière, jusqu'à ce que j'en vinsse à murmurer ceci. Comme tant d'autres, lui va me quitter aussi, comme mes vieux espoirs que je croyais fidèles. Vers le matin, il va s'enfuir à tire-d'aile. L'oiseau dit alors « Jamais plus ». Sa réponse jetée avec tant d'à-propos me fit tressaillir. « C'est tout ce qu'il doit connaître, me dis-je. Sans nul doute, il recueillit ces mots chez quelque infortuné, chez quelque pauvre maître, que le deuil implacable a poursuivi sans frein, jusqu'à ce que ses chants n'eussent plus qu'un refrain, jusqu'à ce que sa plainte à jamais désolée comme un des profundis de sa joie envolée eût pris ce refrain « Jamais plus ». Ainsi je me parlais, mais le grave corbeau, induisant de rechef tout mon cœur à sourire, je roulai vite un siège en face de l'oiseau, me demandant ce que tout cela voulait dire. J'y réfléchis et, dans mon fauteuil de velours, je cherchai ce que cet oiseau des anciens jours, ce que ce triste oiseau, sombre, augural et maigre, voulait me faire entendre en croissant cet aigre et lamentable « Jamais plus ». Et j'étais là, plongé dans un rêve obsédant, laissant la conjecture en moi filer sa trame, mais n'interrogeant plus l'oiseau dont l'œil ardent me brûlait maintenant jusqu'au fond de l'âme. Je creusais tout cela comme un mauvais dessin, béant, la tête sur le velours du coussin, ce velours violet caressé par la lampe, et que sa tête, à Malénor, que sa tempe ne pressera plus, jamais plus. Alors l'air me sembla lourd, parfumé par un invisible encensoir que balançaient des anges, dont les pas effleuraient le tapis rouge et brun, et glissaient avec des bruissements étranges. « Malheureux ! » m'écriai-je. « Il t'arrive du ciel un peu de népenthèse pour adoucir ton fiel. Prends-le donc ce répit qu'un séraphin t'apporte. Bois ce bon népenthèse. Oublie enfin la morte. » Le corbeau grinça.
« Jamais plus !»«
Prophète de malheur, oiseau noir ou démon ! » criai-je. « Que tu sois un messager du diable, ou bien que la tempête, ainsi qu'un goémon, t'ait simplement jeté dans ce lieu pitoyable, dans ce logis hanté par l'horreur et l'effroi, valeureux naufragé, sincèrement, dis-moi s'il est sur terre un baume de Judée qui puisse encore guérir mon âme corrodée. » Le corbeau glapit.
« Jamais plus. »
« Prophète de malheur, oiseau noir ou démon, par ce grand ciel tendu sur nous, sorcier d'ébène, par ce Dieu que bénit notre même limon, dis à ce malheureux damné chargé de peine si dans le paradis qu'il ne doit pas cesser, oh, dis-lui s'il pourra quelque jour embrasser la précieuse enfant que tout son corps adore, la sainte enfant que les anges nomment Lénore. » Le corbeau gémit.
« Jamais plus. »
« Alors séparons-nous, puisqu'il en est ainsi, » hurlai-je en me dressant. « Rentre aux enfers, replonge dans la tempête affreuse. Oh, pars, ne laisse ici pas une seule plume évoquant ton mensonge. Monstre, fuis pour toujours mon gîte inviolé, désaccroche ton bec de mon cœur désolé. Va-t'en, bête maudite, et que ton spectre sorte et soit précipité loin, bien loin de ma porte. » Le corbeau râla.
« Jamais plus. »
Et sur le buste austère et pâle de Pallas, l'immuable corbeau reste installé sans trêve. Au-dessus de ma porte, il est toujours, hélas, et ses yeux sont en tout ceux d'un démon qui rêve. Et l'éclair de la lampe, en ricochant sur lui, projette sa grande ombre au parquet chaque nuit, et ma pauvre âme, hors du cercle de cette ombre qui gît en vacillant, là, sur le plancher sombre, ne montera plus. Jamais plus. End of poem. This recording is in the public domain.
Le Corbeau by Edgar Allan Poe, translated by Sir Tolmac Sinclair, read for LibriVox.org in French by Margaret Bréchant. Le Corbeau. Jadis, vers l'heure sombre de minuit, triste et lassée, quand, faible et mélancolique, je pensais au passé, en lisant une page étrange, curieuse et obscure, de connaissances oubliées, de peines bien dures. Comme je remuais la tête, presque sommeillant, soudain l'on frappa à la porte, un coup retentissant. Comme si l'on frappait par plaisir, même en plaisantant, on frappa à la porte de ma chambre avec ardeur. Alors je murmurai à part, c'est quelque visiteur qui frappe à la porte de ma chambre, à coup soutenu, seulement cela et rien de plus. Alors j'allais ouvrir la porte au milieu de la nuit, quand, avec de légers mouvements et sans encabrer, un grand corbeau majestueux sortit à l'heure de l'ombre, des jours purs et saints d'autrefois dans la grise pénombre. Il ne fit aucun salut, et de moi rien ne quitta, ne resta pas calme une minute et ne s'arrêta. Mais comme un grand seigneur ou comme une dame, il entra, vola sur la porte de ma chambre, si sombre, hélas, et se percha fièrement sur un buste palace. Sur la porte de ma chambre, panneau bien vermoulu, se percha et s'assit, rien de plus. Or, cet important oiseau couleur d'ébène, en changeant, mes tristes idées me fit sourire faiblement, par son grave et austère décorum et par le soin de la contenance qu'il gardait là-bas, dans son coin. Quoique ta crête soit courte et que tu sois bien rusé, sur nulle lâcheté pour entrer, tu ne t'es basé. Horrible et hideux corbeau que je hais, là-bas perché, errant loin du rivage sombre de ton lieu natal, dis-moi, sans mensonge, quel est ton grand nom seigneurial, sur la plage plutonienne de la nuit sans vertu? Le corbeau répondit, jamais plus. Mais l'affreux corbeau, toujours perché solitairement, sur ce buste calmement perché, disait fièrement, ces simples mots, comme si son âme était éveillée, dans ces seulement il épancha sa subtile pensée, rien de plus que tout cela alors il ne murmurait, pas une seule plume sur son dos ne s'agitait, jusqu'à ce qu'en peine je dis comme cela durait, j'eus beaucoup d'autres amis, jadis, aimés tendrement, un matin il me quittera, sans délai, promptement. Comme nos espoirs passés se sont envolés, déçus, or l'oiseau répétait, jamais plus. Par le silence rompu à la fin presque étonné, et par sa simple réponse vaguement mystifiée, sans doute, me disais-je, ce qu'il murmure là-haut, et tout ce qu'il connaît, et même son unique mot, après de quelques maîtres malheureux, presque déments, qui subit quelque désastre impitoyable, vraiment, désastre qui lui suivit très vite et rapidement, et de qui les chants contenaient, en ces notes si fortes, seulement le dur regret de ses espérances mortes, avec ce fardeau mélancolique et parfois confus, du temps qui ne sera jamais plus. Prophète, lui dis-je, chose de mal toujours méchant, prophète, que tu sois oiseau ou bien diable péchant, soit que tu fus envoyé par Satan en sa colère, ou que l'orage te lança de l'enfer sur la terre. Le cœur en rage est cependant tout à fait indompté, sur ce sol désert, magique et sans aucune bonté. Ici même, chez moi, objet d'horreur et effronté, dis-moi vraiment, je t'implore, effrayant et vain fantôme, n'y a-t-il pas en galant de baume? Dis-le-moi, je t'implore, corbeau intrus. Le corbeau répondit, jamais plus. Ah, que ce mot soit notre signe d'adieu cependant, triste oiseau ou démon de l'enfer, dis-je en m'écartant, va-t'en loin d'ici, dans la tempête être maudit. Oh, retourne vers le rivage plutonien de la nuit, et ne laisse aucune plume noire en signe visible du mensonge que ton âme a dit, mensonge risible. Laisse-moi dans ma solitude affreuse être nuisible, quitte le buste au-dessus de ma porte et sois damné, et retire ton bec maudit de mon cœur torturé, et ta forme de sur ma porte aux angles bien aigus. Le corbeau répondit, jamais plus. Le corbeau maudit, jamais ne s'envolant, méfiant, encore assis, et toujours défiant, sur le buste palace à la chevelure d'ambre, reste toujours au-dessus de la porte de ma chambre. Et ses yeux ont tout l'aspect envieux et le ton si vert de ceux d'un démon qui dort, mais l'œil à moitié ouvert. La lumière d'une lampe le montre à découvert, dessine parfois son ombre sur le parquet si sombre, et mon âme vague de dehors de cette triste ombre qui flotte sur le parquet, mon âme aux espoirs perdus. Oh, ne sera libre jamais plus. End of poem. This recording is part of the public domain.
Der Rabe by Edgar Allan Poe. Translated by Karl Theodor Eben. Read for LibriVox.org in German by Hokus Pokus. Mitternacht umgab mich schaurig, als ich einsam, trüb und traurig, sinnend saß und las von mancher längst verklungenen Mär und Leer. Als ich schon mit matten Blicken im Begriff in Schlaf zu nicken, hörte plötzlich ich ein Ticken an die Zimmertüre her. ein Besuch wohl noch, so dacht ich, den der Zufall führet her. Ein Besuch und sonst nichts mehr. Wohl hab ich's im Sinn behalten, im Dezember war's im Kalten, und gespenstische Gestalten warf des Feuers Schein umher. Sehnlich wünscht ich mir den Morgen, keine Lindrung war zu borgen aus den Büchern für die Sorgen tief und schwer um die Selge, die Lenoren nennt der Engel heilig her. Hier, ach, nennt sie niemand mehr. Jedes Rauschen der Gardinen, die mir wie Gespenster schienen, füllte nun mein Herz mit Schrecken, Schrecken nie gefühlt vorher. Wie es bebte, wie es zagte, bis ich endlich wieder sagte, ein Besuch wohl, der es wagte, in der Nacht zu kommen her, ein Besuch, der spät es wagte, in der Nacht zu kommen her, dies allein und sonst nichts mehr. Und ermannt nach diesen Worten öffnete ich stracks die Pforten. Dame oder Herr, so sprach ich, bitte um Verzeihung sehr, doch ich war mit matten Blicken im Begriff, in Schlaf zu nicken, und so leis scholl euer Ticken an die Zimmertüre her, daß ich kaum es recht vernommen, doch nun seid willkommen sehr. Dunkel da und sonst nichts mehr. Düster in das Dunkel schauend, stand ich lange starr und grauend, Träume träumend, die hienieden nie ein Mensch geträumt vorher. Zweifel schwarz den Sinn betörte, nichts die Stille draußen störte, nur das eine Wort man hörte, nur »Lenore« klang es her. Selber haucht ich's, und »Lenore« trug das Echo trauernd her. Einzig dies und sonst nichts mehr. Als ich nun mit tiefem Bangen wieder ins Gemach gegangen, hört ich bald ein neues Pochen, etwas lauter als vorher. Sicher, sprach ich damit beben, an das Fenster pocht es eben, nun wohlan, so lass mich streben, daß ich mir das Ding erklär. Still, mein Herz, daß ich mit Ruhe dies Geheimnis mir erklär, wohl der Wind und sonst nichts mehr. Riß das Fenster auf jetzunder, und herein stolziert, o Wunder, ein gewaltger, hochbejahrter Rabe schwirrend zu mir her, flog mit mächt'gen Flügelstreichen, ohne Gruß und Dankeszeichen, stolz und stattlich sondergleichen, nach der Türe hoch und her, flog nach einer Pallasbüste ob der Türe hoch und her, setzte sich und sonst nichts mehr. Und trotz meiner Trauer brachte er dahin mich, daß ich lachte. So gesetzt und gravitätisch herrscht auf meiner Büste er. Ob auch alt und nah dem Grabe, sprach ich, bist kein feiger Knabe, grimmer, glattgeschorner Rabe, der du kamst vom Schatten her. Sprich, welch stolzen Namen führst du in der Nacht plutonschem her? Sprach der Rabe, nimmermehr. Ganz erstaunt war ich, zu hören, dies Geschöpf mich so belehren, schien auch wenig Sinn zu liegen in dem Wort bedeutungsleer, denn wohl keiner könnte sagen, daß ihm je in seinen Tagen sonder Zier und sonder Zügen so ein Tier erschienen wär, das auf seiner Marmorbüste ob der Tür gesessen wär, mit dem Namen Nimmermehr. Dieses Wort nur sprach der Rabe, dumpf und hohl, wie aus dem Grabe, als ob seine ganze Seele in dem einen Worte wär. Weiter nichts ward dann gesprochen, nur mein Herz noch hört ich pochen, bis das Schweigen ich gebrochen. Andere Freunde flohen seither, morgen wird auch er mich fliehen, wie die Hoffnung floh seither, sprach der Rabe nimmermehr. Immer höher stieg mein Staunen bei des Raben dunklem Raunen, doch ich dachte, ohne Zweifel weiß er dies und sonst nichts mehr, hat's von seinem armen Meister, dem des Unglücks finstre Geister drohten dreist und drohten dreister, bis er trüb und trauerschwer, bis ihm schwand der Hoffnung Schimmer und er fortan seufzte schwer, o nimmer, nimmermehr. Trotz der Trauer wieder brachte er dahin mich, daß ich lachte. Einen Armstuhl endlich rollte ich zu Tür und Vogel her. In den samtnen Kissen liegend, in die Hand die Wange schmiegend, sann ich, hin und her mich wiegend, was des Wortes Deutung wär, was der grimme, finstre Vogel aus dem nächt'gen Schatten her wollt mit seinem Nimmermehr. Dieses saß ich still ermessend, doch des Vogels nicht vergessend, dessen Feueraugen jetzo mir das Herz beklemmten sehr. Und mit schmerzlichen Gefühlen ließ mein Haupt ich lange wühlen in den veilchenfarbnen Pfühlen, überstrahlt vom Lichte her. Ach, in diesen samtnen Pfühlen, überstrahlt vom Lichte her, ruhet sie jetzt nimmermehr. Und ich wähnte, durch die Lüfte wallten süße Weihrauchdüfte, ausgestreut durch unsichtbare Seraphshände um mich her. Lete, rief ich, süße Spende schickt dir Gott durch Engelshände, dass ich von Lenoren wende deine Trauer tief und schwer. Nimm, und nimm die süße Spende und